Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Littérature.
Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Raphaël Léris, Grégoire Leménager, Florent Georgesco pour parler ensemble de Vie de Gérard Fulmar de Jean Echenoz aux éditions du Minuit. Un automne de Flaubert d'Alexandre Postel chez Gallimard. Lake Success de Gary Steingart aux éditions de L'Olivier. Il y aura un coup de cœur de Raphaël Léris pour Ordinary People de Diana Evans, Globe. Nous ouvrons cette dispute avec Vie de Gérard Fulmar, de Jean Echenoz, l'édition de Minuit. Livre qui fait l'ouverture aussi du monde des livres, même pour sur sa une, aujourd'hui. Aurais-tu le pensé, Gérard Fulmar, qu'il ferait la une du monde? Je cite un tweet de Raphaël Léris. Alors qu'il publiait auparavant un roman tous les deux ans, Jean Echenoz semble avoir, hélas, adopté un nouveau rythme. Le Magistral 14 avait été publié en 2012, envoyé spécial en 2016, et nous arrive donc en début 2020, cette Vie de Gérard Fulmar, un roman tous les quatre ans, et un nouvel opus qui se situe, on va en parler dans la veine du précédent, envoyé spécial, qui semble donc inaugurer peut-être après les biographies très romancées de Ravel, de Zatopek, de Tesla, un nouveau cycle de polar assez loufoque, comme on va l'entendre peut-être aussi dans cette courte lecture, faite par Boris Pinault.
Revenons à moi qui me nomme Fulmar, me prénomme Gérard et suis né le 13 mai 1974 à Gisors, Eure. Taille 1m68, poids 89 kg, couleur des yeux marron, profession steward, domicilié rue Erlanger, Paris 16e où je vis seul. Gérard Fulmar donc, et si j'ai quelques raisons de me plaindre, du moins ne suis-je pas mécontent de ce patronyme assez peu courant, qui ne sonne pas mal, qui est presque le nom d'un bel oiseau marin auquel j'aimerais m'identifier, sauf qu'il est grégaire, et moi pas plus que ça. Sauf aussi que je n'ai pas le physique, ma surcharge pondérale s'opposant en toute hypothèse à ce que je prenne un jour mon vol. Même si des vols, vu mon métier, j'en ai pris pas mal, mais d'abord ce n'est pas la même chose, et ensuite, cette profession de steward, je ne l'exerce plus. Mon vrai statut actuel est celui de demandeur d'emploi, en passe de se reconvertir, mais je vais développer ce point. À part ce nom, je ne suis pas sûr de provoquer l'envie. Je ressemble à n'importe qui en moins bien. Taille au-dessous de la moyenne et poids au-dessus. Physionomie sans grâce, études bornées à un brevet, vie sociale et revenus proches de rien, famille réduite à plus personne, je dispose de fort peu d'atouts, peu d'avantages ni de moyens. Encore heureux que j'ai pu reprendre ces deux pièces et demie après le décès de ma mère. Elles étaient locativement les siennes et je n'ai pas changé les meubles. C'est là qu'à présent je me tiens, fenêtres entrouvertes sur une rue peu passante. Elle a beau être située dans le quartier d'Auteuil contenant principalement des gens à l'aise, il n'empêche qu'elle n'est pas bien gaie, la rue Erlanger. Sur elle aussi, je reviendrai.
Voilà pour cet extrait qui situe, on l'aura compris, plutôt au début de Vie de Gérard Fulmar de Jean Echenoz aux éditions de Minuit. Un premier tour de table rapide pour accueillir un premier sentiment sur ce nouveau roman d'Echenoz, Raphaël Léris.
Encore un petit miracle de l'alchimiste Echenoz.
Grégoire Leménager.
Bah écoutez, on voit là que les meilleurs polars se font aussi avec des très très mauvais détectives. Et surtout quand on a le style millimétré de Jean Echenoz, effectivement.
Les Florent Georgesco.
C'est un livre extrêmement réjouissant, y compris peut-être même surtout dans le lugubre, parce qu'il est une liberté. Enfin, c'est la liberté comme technique romanesque. Quoi. Tout part vers la liberté, tout est possible dans ce livre. Et c'est fort joyeux.
Ouais, une liberté d'orfèvre. Alors, peut-être pour. Vous parliez de précision du travail. Non, mais c'est vrai, cette apparente liberté.
La liberté n'est pas l'improvisation,
mais d'une complexité de fait qui m'a réjoui. Mais bon, Raphaël Léris, pour ouvrir vraiment le bal.
Alors, donc l'extrait qui a été lu à l'instant pose très très bien les bases de ce que sera la vie de Gérard Fulmar, enfin de ce qu'est la vie de Gérard Fulmar. Donc, quand l'ouvrage s'ouvre, il va s'installer comme détective, puisqu'il ne peut plus il ne peut plus exercer, le pauvre, suite à un incident dont on ne saura pas grand-chose, à part qu'il est probablement scabreux et qu'il a eu lieu non loin de Stuttgart.
Scabreux, c'est vous qui le dites, hein.
Je crois qu'il a été grave.
Grave.
Je pense qu'il a fait un truc atroce.
Oui, mais on ne sait pas quoi. Donc, elle a dit scabreux, Raphaël Léris, ça parle d'elle.
Il lui a valu une obligation de soins par un psychiatre qu'il va voir rue du Louvre. Là, il découvre la merveilleuse
enseigne
du Luc détective sur laquelle rêvent tant de Parisiens. Lui-même se dit, tiens, pourquoi est-ce que je ne ferais pas ça comme métier, moi-même, en créant ma petite entreprise Conseil Fulmar, CFA. Et le voilà embringué, il ne se passe pas grand-chose, il rate tout, parce qu'en fait, c'est l'histoire des ratages successifs de Gérard Fulmar, mais il va se retrouver embringué donc dans une histoire avec une organisation politique dont la tête de liste a été visiblement enlevée. Alors, on est quelque part entre le roman sur le pouvoir, donc l'espèce de vague roman hard-boiled, puisque c'est ainsi que se rêverait Fulmar en détective à l'ancienne, en hard-boiled, et les personnages de la Fédération Populaire Indépendante, la FPI, vont nous permettre d'entrer dans la tragédie à laquelle va se retrouver mêlé ce brave Gérard Fulmar, avec son nom d'oiseau, mais d'oiseau qui vomit, c'est quand même le propre du Fulmar, sachez-le, sur ses ennemis.
Ah, voilà. Les informations
sur les
précises.
Intrus.
Hein.
Ce que ne fait pas Gérard
Fulmar.
Notre ami
Gérard, oui.
Voilà, donc on a des bouts de tragédie racinienne, parce que donc il y a un beau... Alors, de Phèdre tordu un peu dans tous les sens, oui. Puisqu'il y a un beau-père amoureux de sa belle-fille. Mm. Un petit clin d'œil. Bon, mais tout ça, en fait... Moi, ce que je trouve, comme toujours, fabuleux, c'est qu'à la fois, on a l'impression d'être dans une parodie, mais qu'on n'est pas dans une parodie, parce que ça nous intéresse quand même de savoir ce qui va se passer, mais qu'en vrai, le vrai moteur du roman, c'est chaque phrase des Schnauz qui est merveilleuse, extraordinaire, très très drôle. Je crois qu'il y a une phrase insignifiante, et j'aimerais savoir comment il réussit à faire en 240 pages autant de pirouettes magnifique de style, de drôlerie, des descriptions dans lesquelles on dit « Non, finalement, ça, non, on va pas... » Mais du coup, nous allons parler d'autre chose, la vie de quelqu'un d'autre. Donc là, c'est aussi un des éléments...
Il y a des vies dans cette vie.
Il y a des vies, voilà. Donc, ce qui est sans doute un import venu de sa trilogie de vie, de Tesla, Zatopek et
Ravel.
Et Ravel. Mais donc, il les fait en très condensé, sur des personnages réels, tel Mike Brandt qui s'est donné la mort.
J'aurais bien passé qui saura, j'avoue, dans l'émission. Avec la lecture, c'était un peu compliqué. On aurait pu tous chanter, je crois.
C'est dommage.
Mike Brandt.
Enfin bon.
On pourra le faire.
Voilà, mais des vies, des personnages imaginaires aussi. Voilà, tout ça tient avec, alors on pourrait dire des bouts de ficelle, mais non, avec le style miraculeux de Jean Echenoz.
Alors style, Grégoire Leménager, et construction aussi, c'est ce qui est déjà évoqué à l'instant. Moi, j'y reviendrai sans doute. Par quel bout vous avez envie de l'attraper, ce livre de Jean Echenoz?
C'est pas évident, on peut l'attraper par n'importe quel bout, parce qu'il est réussi de bout en bout, ce livre. Enfin, ouais. Vraiment, non, c'est vrai, il n'y a pas une page de trop, il n'y a jamais un mot de trop, il n'y a jamais un détail superflu, enfin, tout est, c'est un grand, grand lecteur de Flaubert, hein, Echenoz, ses livres cultes, c'est Bouvard et Pécuchet. Ouais.
Programmation thématique, ce soir.
Sa bibliothèque, moi, je me souviens avec ma camarade, Elisabeth Philippe, nous l'avions interviewée il y a quelques temps, et on l'avait fait parler de ses lectures, et en gros, ses lectures, c'est quand même Jacques le Fataliste, qui relit en permanence, dont il a je sais pas combien d'exemplaires, parce qu'il dit que quand ses livres sont mal rangés, donc il le rachète régulièrement pour pouvoir le relire. Bouvard et Pécuchet, dont il passe son temps à se demander si c'est plutôt une tragédie ou plutôt une comédie, et puis les polars, quoi, parce que c'est de là qu'il vient, c'est ça qu'il voulait faire au départ, il voulait faire du Dachier à la Mette, Echenoz, et puis c'est du Dachier à la Mette raté, et du coup c'est du Echenoz très réussi. Il y a des passages là qu'il aimait beaucoup Manchette aussi. Il y a un moment dans la dérive de ce détective qui est un bon à rien infini. Il y a un moment où il se retrouve dans un hôtel glauque en planque et tout ça. On est vraiment dans l'univers de Manchette là. Donc il fait tout ça très très bien. Et puis effectivement avec une liberté de liberté stylistique, une liberté de conteur, une manière de présenter les personnages puis de passer à autre chose, puis de revenir au personnage principal qui est le narrateur, là, ce fameux Fulmar, puis de repartir sur un nouveau portrait de personnage. Il a une façon d'ouvrir et de fermer des parenthèses qui est géniale, qui théorise à un moment. Là. Il est en train de nous parler de la rue Erlanger, je sais pas quoi, la rue Erlanger l'avait échappé belle, et je ferme ici mes parenthèses, mais c'est toujours le même problème avec les parenthèses. Quand on les ferme, qu'on le veuille ou non, on se retrouve dans la phrase. Et la phrase, c'est donc que Bardot m'a appelé le lendemain matin. Et hop, il retombe sur ses pattes, il nous ferme la parenthèse sous les yeux, en soulignant le fait qu'il est en train de fermer une parenthèse. Et quand on ferme une parenthèse, on se retrouve dans le cours du récit, un peu ordinaire, où on se trouvait auparavant, et que la parenthèse, aussi fantastique soit-elle, doit se refermer à un moment. Et il en ouvrira une autre très bientôt. Enfin, il fait ça d'une manière vraiment très, très limpide, très acrobatique. Et en même temps, on s'attache à ce pauvre type-là auquel il arrive tous les malheurs du monde, même si c'est un tocard, on s'y attache.
Jean Georgesco.
Même pour ça, d'ailleurs. Ouais. On finit par avoir une certaine pitié pour cet homme qui passe à la moulinette en permanence.
Mais entouré par des salopards, en plus.
Qui est une espèce de marionnette, oui, ou de poupée de chiffon qu'on se balance. Et le spectacle de la cruauté autour de lui est d'ailleurs très, très amusant et serait extrêmement, extrêmement angoissant s'il se prenait au sérieux. Or, il y a toujours une manière de frôler des choses. Après tout, il touche à la politique, il touche à la tragédie, en effet, puisqu'il s'amuse avec quelques-uns des éléments de Phèdre. L'amour pour la belle-fille, mais il y a aussi une histoire de monstre marin, par exemple. Mais je reviens sur ce que je disais.
Monstre marin à 37 ou 38 ans, je ne me rappelle plus, mais c'est précisé. Hein.
Oui.
Hein,
ce nouveau personnage.
Je n'en dirai pas plus.
Ce qui est extraordinaire, je reviens sur cette impression de liberté, au fond, parce qu'en effet, c'est une mécanique extrêmement précise, mais qui est construite sur des lignes de fuite en permanence. Il y a les parenthèses qui se referment, et hélas, il faut bien retomber sur la phrase, comme il dit, mais il y a aussi toutes celles qui ne se referment pas. Et il y a surtout un art du pchit, si je puis dire. Un art de laisser faire pchit aux scènes attendues, aux rebondissements les plus importants. Il y a par exemple une ligne narrative, puisque, on l'a dit, je ne veux pas trop déflorer, mais le point de départ du livre est la disparition de Nicole Tourneur, la secrétaire générale de la FPI.
Oui.
Bon, mais par exemple, on ne va pas raconter ce qui se passe ensuite, mais la manière dont on dénoue ça est pour le moins inattendue. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il amorce quelque chose et que donc on peut commencer à prévoir ce que cela peut donner, on débouche sur autre chose. Un autre chose parce qu'il balaye avec désinvolture ce qui était attendu, ou parce que quelque chose de plus étonnant encore vient tomber sur l'intrigue, comme au début du livre, un satellite ex-soviétique tombe sur un centre commercial d'Auteuil, un fragment. N'exagérons rien. Oui. Arnaud, vous avez
raison. Change le quotidien. Ou faire ses courses.
Oui, absolument.
C'est ça, quand même.
Mais c'est le drame. C'est le premier drame de Gérard Fulmar. Il ne sait plus où aller faire ses courses et sa vie en est compliquée. Mais ce bout de satellite soviétique qui tombe sur le centre commercial au début est une sorte d'image de la manière dont il fait vivre son roman. Ça tombe, des bouts de satellites soviétiques ou autres, ou Racinien ou tout ce que vous voulez, tombe sur le récit à intervalles réguliers. Et c'est une des méthodes qu'il utilise, et on pourrait s'amuser à faire la liste de toutes les méthodes qui sont très nombreuses et très inventives à chaque fois, pour détourner le fil de son roman et pour créer cette sorte d'horizon d'attente très spécifique à Echnoz, qui est l'attente de tout. Car tout peut arriver. Le plus incongru peut se passer, y compris la tragédie. Peut-être ce qui est le moins inattendu dans tout cela, c'est le destin assez misérable, on peut le dire, de Gérard Fulmar. Mais en même temps, ça c'était prévu dès le début, mais il lui arrive, avant peut-être d'accomplir totalement son destin de loser, il lui arrive deux, trois choses qui n'étaient pas au programme. Donc rien n'est jamais au programme, ni pour les personnages, ni surtout pour la forme du livre qui est profondément et de manière permanente réjouissante pour ça.
Oui, parce qu'il y a des pièges aussi pour ou des choses trappes ou des fausses pistes pour le lecteur aussi. Alors, bon, du part, j'ai appris quelques nouveaux mots, puisqu'on a pu évoquer sur les réseaux, mon cher Grégoire, ma chère Raphaël, que les moustaches peuvent être assertoriques ou apodictiques, donc je vous laisserai chercher dans vos dictionnaires. Mais il y a des phrases qui sont tout d'un coup, qui vous réveillent. Qu'est-ce qu'elle fait là, ma mère ? pensa-t-elle, point, puis demande-t-elle à Dorothée. Non, c'est là la liberté, elle fait se dire que oui, la langue française, on peut tout lui faire du moment qu'on la traite aussi bien que la traite Joyce.
Il y a du micro et du macro. La structure du livre se reflète dans la structure des phrases, qui elles aussi sont pleines de satellites soviétiques.
Ouais, mais qui font une...
qui sont la chute. La chute des phrases, c'est parfois un bout de satellite qui tombe, c'est-à-dire là aussi on est saisi par la surprise, l'amusement La phrase ne se prévoit pas non plus.
Non,
rien ne se prévoit.
Qui rajoute aux réjouissances totales, parce qu'il y a les portraits aussi. Tout d'un coup, on pense que tel membre du FPI ou de la FPI, je ne sais plus ce que c'est déjà, le Cédric Ballester va jouer un rôle important, je ne dirais pas lequel. Enfin, on avance comme ça, on va se dessiner quelques-uns des personnages, et quand même toute une galaxie qui arrive malgré tout à exister.
Et on passe son temps à se dire, tiens, ça je reconnais, donc je sais comment ça va se passer. Personnage, il est fait pour faire ceci ou cela. Et non.
Eh ben non, hein, Raphaël Leiris, non.
Non, pas du tout. Et j'ai une envie folle de lire une phrase.
Allons-y. Bah oui, on ne peut pas se priver. Hein.
Parce qu'il surjoue un petit peu le blasé lui-même. Alors, parce qu'il y a deux narrateurs, Gérard Fulmar, et quand même quelqu'un qui pourrait bien être l'auteur, qui a quelques points communs avec lui. Et donc, vers la fin du livre, il écrit « Voici donc qu'après le coup de l'arme à feu... » imposé dans ce genre d'histoire, comme l'a pertinemment fait observer Gérard Fulmar, voici comment vous faire le coup de l'exotisme. Ne manquerait plus maintenant qu'une scène de sexe pour remplir tous les quotas. Nous verrons cela plus tard. Gardons-la en réserve si l'occasion se présente.
Et il va
s'en approcher, s'approcher.
Mais il faudra pouvoir patienter. Hein. Il joue beaucoup avec nous, Jean Echenoz, et on aime ça, Grégoire Le Ménager.
Oui, alors si on voit aussi bien certains des personnages de ce parti politique, c'est aussi pour une raison que nous n'avons pas évoquée, qui donne quand même une petite couleur politique aussi à ce livre. C'est que quand même les personnages de cette Fédération populaire indépendante, comme l'écrit Jérôme Garcin dans l'Obs cette semaine, c'est un petit parti endogamique qu'on imagine plus proche du Rassemblement national que de la France insoumise. Et effectivement, le trio du beau-père, de la mère et de la fille, blonde, etc., ça évoque très très fort le Front National.
Mais il y a un mélange avec des conseillers en communication qui semblent venir plutôt d'ailleurs.
Il y a un mélange, mais quand même
le trio sources politiques de ce parti qui brouille dans toutes les pistes.
Il y a des choses qui brouillent, mais quand même visuellement, on visualise assez bien certaines personnalités du Front National.
Et la secrétaire nationale.
Dans le rôle de la belle jeune fille blonde.
Marine, Jean-Marie,
même d'ailleurs dans Marion, le lieu où elle habite, justement.
Vous avez son adresse?
Ah bah non, justement, parce qu'on ne peut pas nous la donner.
Non, mais le type de lieu. Non,
villa fermée. Une villa fermée.
Et
tout le monde pense à
loin
Montretout.
Des sablons.
Et alors Echenoz,
c'est impossible en fait la situation qu'il donne.
Echenoz, là, dans un portrait qu'on va publier bientôt, il conteste naturellement l'avoir pensé Rassemblement National. Mais évidemment, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et la manière dont il nous montre ce parti qui est complètement pourri, où les types se font tous les coups fourrés possibles, et tout ça... Même si c'est fait de manière très légère, très gracieuse et très drôle, ça donne un point de vue quand même aussi sur la vie politique aujourd'hui.
Ça, c'était nos points de vue sur ce livre de Jean Echenoz. Vie de Gérard Fulmar, vous avez compris qu'on vous le conseille des deux mains, des deux pieds. Parce qu'il y a d'autres livres dont on va parler et je sens que vous serez furieux s'il n'y a pas assez de temps pour l'un d'entre eux. Vous suivez mon regard, Laurent Georgesco. Bon, les éditions de Minuit publient, évidemment, encore une fois, ce nouveau livre de Jean Echenoz. On va parler des livres d'Alexandre Postel, de Gary Steingart et de Diana Evans.
France Culture, La Dispute. Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute avec Un automne de Flaubert d'Alexandre Postel, publié chez Gallimard. Alexandre Postel qui s'est fait remarquer avec Un homme effacé, Goncourt du premier roman, puis l'ascendant prix du deuxième roman, un automne de Flaubert et son quatrième livre. Il s'intéresse aux quelques semaines passées par Gustave Flaubert à Concarneau, à l'automne 1875. C'est pas le meilleur moment de sa vie, si tant est qu'il en ait eu des très très bons, enfin, sauf dans ses souvenirs. Bref, moment de grave dépression pour l'écrivain qui craint soudainement pour son confort matériel, qui n'arrive plus à écrire. On va parler de tout ça après avoir entendu un court extrait de ce livre, lu par Lucille Comeau.
De retour dans son quatrième étage de la rue Murillo, il se met au balcon. La nuit de mars est fraîche. Au dehors, dans l'ombre, les arbres du parc Monceau frémissent au vent. Le désespoir dans lequel l'a plongé la conversation de Victor Hugo n'a pas faibli, mais il s'est compliqué. À son dégoût se mêle à présent la conscience douloureuse, étonnée, de cette pente en lui qui le conduit si aisément au dégoût. Il sent bien qu'en allant voir Victor Hugo, il ne demandait qu'à se dégoûter de Victor Hugo, et cela l'empêche de goûter pleinement son dégoût. Il aimerait croire que la vie n'a rien à offrir, que le monde est haïssable et peuplé d'imbéciles. Il ne parvient pas à s'en persuader tout à fait. Le mal, il le sait, est dans son cœur. Autrefois, il avertissait ses amis qui médisaient de Victor Hugo. « Bien sûr, leur expliquait-il, c'est un démagogue, un bénisseur. Il flatte la vermine philosophico-évangélique. Mais on ne se permet pas de critiquer l'homme qui a écrit un vers que lui, Flaubert, aurait tout donné pour écrire, tout. Ses baisades en Égypte, sa Bovary, les sandales en papyrus de la fille d'Amilcar. L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle. »
Premier sentiment sur ce livre d'Alexandre Postel, Grégoire le Ménager.
On n'imagine pas forcément Flaubert sombrant dans la dépression, parce qu'on a quand même l'image du colosse littéraire, et on a tort de ne pas l'imaginer sombrant dans la dépression. Alexandre Postel l'a fait pour nous, et je trouve qu'il l'a bien fait.
Florent Georgesco.
C'est un livre très instructif, mais je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit un compliment.
Raphaël Leris.
C'est un portrait du grand homme en homard, ce que je trouve assez hardi et assez réussi.
Bon, alors, on va développer ces différents points de vue, à commencer par celui de Grégoire le Ménager.
Oui, bon, j'aime bien Flaubert, ce qui n'est pas très original.
Tu l'aimais bien, c'est un peu original.
Ce qui est un euphémisme,
oui.
Je pense.
Ah bah voilà.
Par ailleurs, Alexandre Postel, moi j'avais lu son roman précédent qui s'appelait Les Deux Pigeons, que j'ai beaucoup aimé, qui était une espèce de réécriture à la fois des choses de Pérec et de Bouvard et Pécuchet, on y revient. Et là, je trouve que ça m'intéressait de voir comment il confirme sa fascination pour Flaubert, pour à la fois sa haine de la bêtise, son humour désespéré et tout ça. Et ce que je trouve très intéressant dans le livre comme angle, c'est qu'il choisit le moment où le saint patron des écrivains n'arrive plus à écrire, quoi. Mmh. Et ça pose quand même la question, qu'est-ce que c'est Flaubert, quoi, une fois qu'on lui retire l'écriture, une fois qu'il peut plus écrire. Et donc, il nous raconte ces quelques mois à Concarneau, là, où Flaubert a 53 ans, rumine son passé, à la fois il craint d'être ruiné, en même temps il se déteste d'éprouver ce sentiment très bourgeois, finalement, d'attachement à l'argent. Il mène une petite vie abrutissante, ça je crois que l'expression est de lui, puisque Postel, quand même, manifestement, s'est un peu documenté pour écrire ce livre, ce qui le rend effectivement instructif, mais il n'est pas seulement instructif, c'est-à-dire qu'il y a quand même une vraie compréhension, je trouve, de Flaubert, de ce qui fait sa grandeur d'écrivain. Il y a un petit décrochage sur les grands romans de Flaubert, avec l'idée que Flaubert, finalement, ce qu'il a apporté à la littérature, c'est une façon de dépouiller la souffrance des oripeaux de la grandeur, et c'est très très juste, la manière dont Postel parle de Madame Bovary à ce moment-là, c'est très très juste. Et puis, sur cette espèce de sentiment d'impuissance, Flaubert, il prend ses bains de mer, il s'ennuie, il tourne en rond. Donc sur la dépression de Flaubert et peut-être sur la dépression en général, je trouve le livre, c'est pas un grand livre, hein, mais je le trouve assez, assez fin, assez subtil, et intéressant, donc.
Florent Georgesco, pas tout à fait le même point de vue.
Il y a beaucoup de choses très intéressantes et réussies dans le livre. Je ne veux pas dire, je veux pas caricaturer les choses. Il y a notamment vers la fin.
Pas votre genre.
C'est pas du tout mon genre. ça me fait plaisir que vous l'ayez remarqué, Arnaud.
Il y a un tout petit peu d'ironie dans ma remarque.
Ah bon? Je ne l'aperçois donc.
Oui, mais vous êtes.
Mais non, mais il y a vraiment de quelques belles choses même dans le livre. La fin est assez belle. Et les 30, 40 dernières pages, il y a des choses sur l'écriture. Quand on voit qu'il a travaillé notamment sur les manuscrits, enfin sur les variantes bien, en tout cas de Flaubert, et il essaie de mettre en scène. Ça, c'est un exercice intéressant qu'un romancier mette en scène des variantes de manuscrits en montrant comment il choisit, comment il rature, comment il change ses mots, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Et puis, évidemment, oui, Grégoire le disait, il a raison. Il y a un magnifique travail documentaire là-dessus. Moi, je ne connaissais pas bien, je l'avoue, ce passage à Concarneau. Nous apprenons d'ailleurs beaucoup de choses sur les recherches de son ami Pouchet, le naturaliste Pouchet, et sur les on parlait de monstres marins tout à l'heure, lui, il les connaît de près.
De l'intérieur, je dirais.
Il y a tout ça qui est vraiment souvent très riche. Il y a peut-être un problème principal, c'est que il y a une contamination stylistique qui est un peu écrasante. Il ne peut pas s'empêcher d'essayer de le faire à la Flaubert. Et c'est pas faire injure à Monsieur Postel de dire que c'est pas tout à fait aussi puissant. Et il y a un parti pris stylistique là qu'il aurait, je pense, dû éviter. Il aurait été beaucoup plus convaincant et beaucoup plus capable peut-être de faire vivre son bonhomme Flaubert s'il n'avait pas été dans une sorte d'imitation, franchement, on le voit très clairement dans l'usage du point-virgule, dans la scansion des phrases, dans l'enchaînement des propositions, etc. Il y a une sorte de d'attirance, comme ça, une polarisation vers la phrase de Flaubert qui l'appauvrit beaucoup et qui contribue à une artificialisation de l'ensemble des dispositifs de ce livre, qui font qu'on ne le voit, on ne voit pas tellement bouger Flaubert, on ne voit pas tellement de réalité de Flaubert. On ne peut pas s'empêcher de repenser à la correspondance et de se dire, là, on le voyait quand même un tout petit peu plus. Il essaie de l'attraper au moment où, justement, on peut peut-être le connaître le moins bien, puisqu'il est au fond d'une sorte de trou, dans un silence. Et en réalité, il se tient très loin de lui, à force de chercher une sorte de joliesse flaubertienne assez manquée, à mon avis, et surtout qui éloigne beaucoup.
Raphaël Léris, sur cet automne de Flaubert.
Donc, Flaubert en homard, donc, puisque il est entre deux carapaces, il est dans cette mue. Sur la contamination stylistique, en ce qui me concerne, j'ai trouvé que, par exemple, la place des alexandrins ou des hémistiches était plutôt quelque chose d'assez réussi dans le rythme du texte, d'autant qu'il y a des échos, forcément, au moment où il se livre à cet exercice dont vous parlez, Florent, à voir comment il retravaille les premières phrases, donc, de l'écriture de Saint-Julien l'Hospitalier,
puisque c'est quand même le moment où Flaubert écrit ça, ce qui n'est pas tout à fait rien.
Voilà, puisque, donc, en fait, il y a une première moitié, en gros, du livre qui concerne sa dépression, les bains de mer, la peur de la ruine, la faillite. Et puis, un après-midi, on ne sait pas pourquoi, lui reviennent ces images vues sur un vitrail. Et lui revient cette envie qu'il avait déjà évoquée 20 ans plus tôt, d'écrire sur Saint-Julien l'Hospitalier. Et donc, dans la deuxième partie, on est sur cette écriture. Et puis, sur la reprise des phrases, la cérémonie de l'écriture. Moi, il me semble évidemment qu'on voit les moments où la documentation est plus ou moins métabolisée.
Oui, c'est ça, exactement.
Mais c'est un petit peu le problème des biopics, comme on dit, où on sent, surtout avec quelqu'un qui a autant écrit que Flaubert, enfin qui a laissé quand même peu de blanc dans sa vie. Maintenant, je trouve qu'il s'en sort assez vaillamment d'un exercice qui est quand même vraiment très hardi, et que voilà, la partie, enfin le fait que il s'essaye comme ça à ce rythme de la phrase m'a, moi, ça m'a plutôt ému et j'ai assez aimé.
Ouais, mais je suis assez partagé, à vrai dire, sur ce livre que j'ai pris quand même du plaisir à lire.
Moi aussi.
Tout à fait. Voilà.
Comme vous. Parce qu'on apprend des choses.
On y apprend des choses. En même temps, j'aime bien cette tentative d'écriture, même si j'en vois parfois les limites. Et en même temps, c'est quand même assez. Ça m'a fait du bien de lire ce type de langue. Nous qui lisons des nouveautés, on a quand même moins souvent affaire à ce type d'écriture qu'à beaucoup d'autres. Et vous écoutant Florent Georgescu, je me disais, alors, s'il avait essayé d'écrire, disons, en 2019, puisque J'imagine qu'il l'a écrit l'an dernier. Sinon, oui, c'est vraiment Gallimard fait très vite. Qu'est-ce que c'est qu'écrire d'aujourd'hui sur cet épisode
non,
de...
Moi, non, mais vous voyez ce que je veux dire. Non, mais j'entends bien, mais. C'est juste essayer d'avoir sa voix à lui.
Oui. Voilà. On l'entend un petit peu quand même.
Elle n'a pas besoin d'être lâchée pour
par
être
moment,
à lui.
Et cette sorte de... Alors du coup, ça devient presque un académisme, mais c'est là que du coup, ça ne marche pas, parce qu'on ne peut pas être académique en écrivant sur Flaubert, sinon c'est qu'on a, ben, c'est on a raté tradition. Quelque chose. Oui. Nous sommes d'accord. Mais bon, donc je l'ai lu avec intérêt, souvent avec plaisir, et je suis content que ce type de livre existe, même si ce n'est pas absolument celui que je recommanderais le plus chaleureusement ce soir, on y reviendra. Grégoire Le Ménager, vous entendez nos réserves, voire
oui,
plus
oui,
ou moins grandes.
J'entends, et... Mais bon, le principal reproche que vous lui faites, c'est d'essayer d'écrire comme Flaubert. J'entends qu'il soit pas tout à fait toujours à la hauteur de son modèle, mais il y a des modèles pires que celui de Flaubert.
On ne peut pas lui reprocher.
Non, mais j'entends.
Lui reprocher d'avoir tenté.
Mais par ailleurs, je ne trouve pas que ça donne un côté académique au livre, ni un côté vieillot, parce que le style de Flaubert, en fait, il est tellement parfait qu'il y a une espèce d'intemporalité là-dedans.
Celui de Flaubert, celui-là, il est très ancré quand même. C'est comme ça que je le ressens.
Je trouve pas tellement. Alors oui, il est relativement impersonnel du coup, mais comme ça, là, de cette manière-là, la personnalité d'Alexandre Postel ne fait pas écran non plus entre nous et ce qu'il nous raconte. Et d'une certaine manière, c'est assez agréable parce que la plupart des biopics littéraires là auxquels on a droit au début, c'était très sympathique. Les auteurs qui se mettent en scène à l'intérieur de leur propre récit, qui intègrent
le tenue et beaucoup de respect.
Et très souvent, ça devient une espèce de gimmick un peu stérile, enfin qui apporte pas grand chose. Là, il le fait pas, il ne le fait pas. Et
Raphaël Léris.
Il y a deux incursions du narrateur. J'en fais pas un reproche.
Ligne, justement, c'est très très.
Justement, il le fait bien. Mais
globalement, il nous présente des tableaux dans lesquels Flaubert évolue lentement, effectivement, parce qu'il est un peu ralenti. Et tout ça crée une atmosphère, crée quelque chose qui nous permet de voir aussi Flaubert impuissant et donc humain. Quoi.
Enfin, oui, avec cette première note en bas de page qui nous indique que tout ce qui est en italique et de la plume de Flaubert, ce qui est alors du coup dommage parce que là j'ouvre un peu au hasard, mais je tombe sur l'ouverture du chapitre 10 qui est décidément Concarneau n'est pas l'Égypte, virgule, ça c'est de Flaubert, la suite oui. Mais bon voilà, cette phrase-là elle est impeccable.
Oui, mais si elle avait été en italique, je pense que Georgesco aura reproché à Postel d'essayer d'écrire comme Flaubert et d'écrire des phrases aussi ridicules que décidément Concarneau n'est pas l'Égypte.
Cette phrase est géniale.
Oui, parce que. Elle est schnauzienne.
Oui, c'est ça. On voit la
filiation. Il aurait dû plagier.
On voit la filiation. Vous voulez dire encore un petit mot parce qu'un coup de cœur arrive.
Non, oui, parce que c'est pas juste stylistique, ce qui me paraît éloigner un peu de ce qui se passe dans le livre, c'est qu'il y a une sorte d'esprit de sérieux. Il est un tout petit peu tombé dans le piège du patrimonial, dans le ton. Il cite un témoin de l'époque, Pentier, qui des années à la fin de sa vie, a dit « Flaubert à Concarneau, on n'a pas beaucoup philosophé, on s'est beaucoup marré ». Et il le conteste pendant 3 pages en disant oui, mais il exagère. En réalité, c'est pas tout à fait ça, puisque donc il était dans la dépression et il pensait en fait à des choses profondes, notre Flaubert. C'est dommage de ne pas essayer d'avoir attrapé ça. C'est-à-dire un tout petit peu plus la vitalité de Flaubert. Et très souvent, il le ramène vers, vous vous rendez compte, c'est Flaubert, donc vers le sérieux et un
non,
peu
mais dans la suite de cette page-là, c'est les marades dans les baignades.
Il le met en tenue de bain.
Ah oui.
Il se limite.
Ce sont
à
les
ça.
Meilleurs moments.
Il se limite à
là,
ça.
Là, c'est une dépression très très light.
Tout en expliquant que, enfin bon, que il a besoin de 3 pages d'explication et d'analyse pour arriver à le montrer dans un maillot de bain. c'est, je pense, un petit biais patrimonial qui est un peu pesant dans le livre.
Bon. Arrêtons-nous là, car le programme est encore chargé. Nous parlions d'un automne de Flaubert, d'Alexandre Postel, aux éditions Gallimard. C'est l'heure du coup de cœur ce soir, celui que Raphaël Léris donne pour Ordinary People de Diana Evans, chez Glom, traduit par
Karine Guerre. Car oui, les livres de 2019 ne s'auto-détruisent pas en 2020. On a encore, en tout cas, enfin, j'ai obtenu le droit d'en parler le 2 janvier. Ne sais pas si la semaine suivante, ça aurait été possible.
Tout est possible pour vous.
Je suis très contente d'avoir accompagné Ordinary People.
Quel bel accent. J'aurais raté ça en plus. De qui
D'ailleurs, de Diana Evans.
Raphaël va le lire en anglais.
Voilà, je vais vous le lire en anglais. Non, donc d'ailleurs, commençons par ce titre qui nous met un petit peu dans l'embarras à l'oral. Donc s'il n'a pas été traduit, si je vous assure, j'ai travaillé sur mon petit vélo en venant. Ordinary People.
Les passants étaient surpris. Ouais.
Au fait.
Donc s'il n'a pas été traduit, alors que Karine Guerre fait tout au long de cet épais roman un remarquable travail, donc c'est parce que Ordinary People est le titre d'une chanson de John Legend. Mon ignorance musicale est abyssale.
Ah bon,
donc, je ne connaissais pas
Mike Brandt, oui.
Ah, autant Mike Brandt, je prends quand vous voulez au karaoké.
D'accord, John Legend, non.
Autant John Legend, je l'ai découvert avec bonheur grâce à cet ouvrage. Et donc, dans cet album Get Lifted, dont on suit les chansons au fur et à mesure de l'histoire d'amour de Michael et Melissa. Diana Evans écrit que John Legend y évoque dans la chanson Ordinary People les affres de l'incertitude dans une chanson nommée Ordinary People. En l'écoutant, on comprenait que son amour était indéniable, mais sans cesse confronté à des difficultés qui les amenaient à se disputer en permanence sans que ni lui ni elle n'entrevoie de solution. Donc, c'est donc ça l'histoire du livre aussi, soit Melissa et Michael, un couple de Londoniens dans la fin de la trentaine. Ils viennent d'avoir un deuxième enfant, vivent dans une maison des quartiers sud de Londres, ils forment un couple jugé parfait de l'extérieur, n'ont pas de problème d'argent majeur, mais il y a la fatigue, l'usure, les tentations, les rancunes accumulées, et puis une maison étonnante qui finit par sembler hantée à Melissa, qui en a un petit peu assez d'y passer son temps avec les enfants, son travail de journaliste freelance, etc. Donc tout ça pourrait sembler très très ordinaire, oui, mais ce qui ne l'est pas, c'est la manière dont Diana Evans raconte ce couple, se glisse dans l'esprit de l'un, puis de l'autre, avant d'aller faire un tour dans la vie de leurs amis Damien et Stéphanie, qui vivent une autre crise. Elle est dans l'empathie avec chacun, mais elle n'en exerce pas moins une vigilante ironie discrète à l'égard de ses personnages, de leurs moments d'auto-apitoiement, et puis aussi des clichés avec lesquels elle joue évidemment. Elle n'a rien contre la psychologie, mais elle la matine d'une touche de fantastique, à travers notamment l'évocation de la maison de Michael et Melissa, quelque chose qui évoque le gothique anglais de loin, pour dire l'esprit qui vacille, tandis que la maison semble vivre sa vie indépendante et pousser les deux à la séparation, même si vraiment jusqu'à la fin on ne saura pas, on mettra du temps.
Vous n'allez pas nous le dire.
Non, je ne vais pas vous dire. C'est indécidable pendant des centaines de pages. La phrase de Diane Evans est ample, riche, sa langue traduite donc par Karine Guerre est précise. Il y a beaucoup de couches dans le texte. On pourrait ricaner en disant c'est une histoire d'amour de gens en crise de la quarantaine, super, merci beaucoup. Sauf que c'est aussi un portrait de ce que c'est que d'être un noir ou une femme métisse aujourd'hui en Grande-Bretagne. Et comment ça a des influences, cette identité, sur la relation entre ces deux personnes, leurs conflits, et de manière plus générale sur leur vie intérieure. On pourrait avoir l'impression d'être dans une maison qu'on a arpentée un million de fois avec cette histoire d'amour en train de se finir ou pas. Et c'est comme dans les rêves, dans ces rêves où vous êtes chez vous et puis en fait vous ouvrez une porte et il y a une autre pièce. Et cette pièce est merveilleuse et donc c'est Ordinary People de Diana Evans.
Elle a été rentabilisée ce trajet en vélo. Hein. Elle a pu se caser une douzaine de fois. Encore une fois, allez. Comment ça s'appelle ?
Non, je vais laisser une petite frustration.
Ordinary People de Diana Evans. Au Globe, c'est une traduction de Karine Guerre.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Le dernier livre à notre sommaire ce soir, c'est Lake Success de Gary Steingart. Alors, j'avais reçu cet auteur sur l'antenne de France Culture en 2008. Oh. Figurez-vous, mes archives me l'ont appris. Rappelé plutôt. Il sortait à l'époque son deuxième roman qui s'appelait Absurdistan. Le premier, traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes Russes, avait reçu un très très bon accueil dans le monde entier. Lake Success n'est que son cinquième roman. Steingart, lui aussi, aime prendre son temps, le temps de peaufiner ses œuvres. Il est publié aux éditions de l'Olivier dans une traduction de Stéphane Rock, qui avait déjà traduit les trois romans précédents de l'auteur. Dans Lake Success, on va suivre Barry Cohen dans sa fuite.
Larry Cohen, homme 2,4 milliards de dollars d'actifs sous gestion, entra d'un pas chancelant dans la gare routière de Port Authority. Il était visiblement ivre et saignait. Il avait une incision nette au-dessus de son sourcil gauche, où l'ongle de la nounou l'avait coupé, et, stigmate de sa femme, une égratignure en forme de larme sous son œil. Il était 3h20 du matin. La dernière fois qu'il s'était rendu à Port Authority remontait à 24 ans. Il avait pris le car à destination de Richmond, en Virginie, pour aller voir sa petite amie de fac. Il se repassait mentalement ce voyage de jeunesse chaque fois que le cours de l'indice SCP le minait ou qu'il découvrait un nouveau et terrible fait sur les troubles dont souffrait son fils. Quand Barry fermait les yeux, il voyait le long ruban d'autoroute, son pays l'appelait des deux côtés de l'asphalte. Il s'imaginait assis sur un dur banc de bois devant quelques cahutes au bord de route. Une femme épaisse, qui marchait en crabe et n'était jamais à court d'anecdotes à raconter, lui servait une assiette de haricots au vinaigre et de porc braisé. Ils discutaient d'égal à égal de la période de leur vie où tout avait déraillé et elle lui offrait le repas. Mais il payait quand même. Et elle disait « Merci Barry ». Car malgré les fortes disparités d'actifs sous gestion qui existaient entre eux, ils s'appelaient déjà par leur prénom.
Cette fois, c'est Aïssa Toundoï qui nous a fait entendre ces quelques phrases issues de ce gros livre, Lake Success, de Gary Steingart. Traduction, je l'ai dit, Stéphane Rock, je le redis. Premier tour de table sur ce livre, Florent Georgescu.
Alors, j'ai fini le livre juste avant de venir, et je dois dire, c'est vraiment un grand livre, et j'ai peur qu'il me laisse un peu muet, tellement je suis...
Blague.
Abasourdi.
Florent Georgescu muet. Alors là, vraiment, 2020, l'année de tous les possibles.
C'est pas une promesse, mais enfin, c'est une
promesse. Ouais, une promesse, bon. Je ne me fâcherai avec personne pour qualifier cette promesse. Raphaël Léris.
C'est un road trip.
Ça suffit l'américain maintenant.
Qui aurait été écrit par un Tom Wolfe, qui aurait une âme et un humour slave. C'est pour moi vraiment un très très grand roman de l'avanglement que j'ai adoré.
Grégoire Le Ménager.
C'est un bon roman américain, très bon, à mi-chemin entre Gatsby le Magnifique et le Loup de Wall Street, avec l'élection de Trump en toile de fond.
Bon. Ben, je vous dis tout de suite aussi que là, vraiment, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu livre pareil. J'en fais même du bruit avec mon micro tellement ça m'a troublé.
Ça mérite qu'on tape nos micros.
Ben oui, non, pas trop quand même. Il ne faudrait pas que ça abîme les oreilles de celles et ceux qui nous écoutent. Non, mais c'est immense.
Oui.
Et vous allez être muet, donc je ne vous donnerai pas la parole,
bon,
mon cher Florent.
Trois, bon.
Allez, trois. Ça va donner quoi en Georgescu?
Des vivas. Je vais pousser quelques vivas. C'est vraiment. Je comprends pourquoi Grégoire dit que c'est un roman américain. Il y a des moments où je me demandais s'il allait pas verser dans ce dont on a un peu trop l'habitude, c'est-à-dire les grands sujets. Alors, ils y sont, d'ailleurs. Il y a la finance, il y a Trump, il y a...
Il appelle Trump. Vous n'avez pas fait de vélo, vous.
Ah non. Je suis rigoureux.
Trump.
Comme dirait un autre anglophone, no sport. C'est une devise. Mais mais il y a tout ça. Il y a aussi parce que le héros Barry a un fils, un petit garçon autiste, ce qui contribue à l'état dans lequel il se retrouve, sur lequel on reviendra. Mais il y a donc beaucoup de choses très lourdes potentiellement. Est très américaine en ce sens-là. On pose les éléments pour faire parler. Bon. Sauf que c'est traversé par absolument autre chose. Je suis totalement d'accord avec ce que dit Raphaël sur un esprit slave qui traverse tout cela. Ouais. Moi, je pensais par exemple à Nabokov, à certains, à Apnine. Il y a quelque chose. Parce que ce que, pour le dire en un mot, ce que Steingart réussit génialement, c'est de fabriquer un regard. Le regard de Barry, essentiellement, sur tout ce qu'il traverse, qui est d'une, à la fois d'une légèreté, d'une grâce, d'une profondeur, et d'une drôlerie, donc il y a quelque chose de savoureux, une sorte de regard extrêmement innocent chez cet homme qui ne l'est pas, dans cette sorte de désarroi ou de désarroi empoté qu'on trouve chez Pnin, par exemple. Vous souvenez, ce vieux professeur russe jamais adapté à la société américaine dans laquelle il s'est retrouvé projeté par hasard, évidemment. Il y a quelque chose de ce décalage indépassable là, chez Barry. Et donc, peut-être pour... Il faut en dire un peu plus sur ce qui se passe dans le livre.
Oui, parce que j'étais si troublé que j'ai oublié de le dire. Hein. Barry est à la tête d'un fonds d'investissement de plusieurs milliards de dollars.
Très riche, oui.
Il vit dans 400 mètres carrés dans une tour de luxe de Manhattan.
Sauf qu'un matin, enfin une nuit, il quitte cette tour parce qu'il se dispute avec sa femme violemment. Il part dans les rues de New York avec deux blessures. Une infligée par sa nounou. Et l'autre
la nounou de l'enfant.
La nounou de l'enfant, plus exactement. L'autre par sa femme. Bref, ça s'est très mal passé. On passe.
Je quitte tout.
Et il se tire à une gare routière de New York pour prendre un bus, pour aller loin, pour traverser l'Amérique. Il a un but qui est de retrouver un amour de jeunesse qu'il n'a plus vu depuis 20 ans. Mais ce qui compte, c'est comment il se retrouve d'abord projeté dans ce monde très pauvre, très misérable, même des bus qui sillonnent les États-Unis. Les Américains riches ne prennent pas le bus, ça n'arrive pas, d'autant que lui, il peut avoir des jets à disposition. Enfin, il est vraiment très riche. Donc, il y a un vrai gros décalage. Mais au fond, ce n'est pas tellement sur ce décalage que va jouer Steingart, mais sur le décentrement absolu, sur l'étrangeté dans laquelle il se retrouve, qui n'est pas tant sociale qu'intime. Ce qu'il a besoin de trouver, c'est un autre monde. C'est être projeté sur un autre territoire que le sien, parce que sa vie est devenue impossible, parce que lui-même ne sait plus du tout qui il est, et il se retrouve justement dans un monde où il n'est plus rien, et c'est là que l'aventure peut commencer. Et c'est l'aventure d'abord de ce regard, de cette étrangeté du regard de Barry.
C'était les trois mots de Florent Georges.
Les premiers trois mots.
Les premiers trois mots, mais Fuller, on va en avoir quelques-uns de Raphaël Léré, sa présence sur son livre « Lake Success ».
C'est l'aventure de ce regard tempéré par le regard de Gary Steingart sur son Barry, qui est un personnage assez peu aimable, hein, quand même, de manière générale.
Oh, moi, je trouve que si. Bon, on peut en débattre.
Ouais, on peut en débattre, mais on va laisser parler Raphaël.
Donc, moi, ce que j'aime énormément, c'est qu'il nous donne le regard de Barry. Il est quand même toujours derrière avec nous. Pour raconter aussi tout l'aveuglement de Barry sur lui, le monde d'où il vient, alors qu'il n'est pas le monde dans lequel il est né, parce qu'il vient d'une famille prolo de...
Nettoyeur de piscine, madame. C'est pas rien. De père.
Voilà, il est arrivé à la tête d'un fonds d'actifs, ou je ne sais pas, je ne comprends jamais ces métiers-là, j'ai toujours du mal. Et qui s'invente qu'il va pouvoir vivre une grande aventure littéraire, parce que c'est aussi ça que veut vivre Barry, c'est se lancer dans un corps à corps avec son pays et son amour de Gatsby, et il se rappelle que pendant ses études, sa passion c'était les livres, et parfois il se faisait croire qu'il n'irait pas en BI, en banque d'investissement, parce qu'il y a quelque chose qui est formidable aussi, qui est le rapport aux mots qu'on ne veut pas prononcer, aux histoires qu'on ne veut pas dire. Donc par exemple
le diagnostic,
voilà, le fait que le fils soit autiste,
le diagnostic,
ça arrive très tard.
Le spectre.
Voilà, et tout ça, et donc ça vaut pour la banque d'investissement, la BI, ça vaut pour l'histoire, pour la raison pour laquelle la nounou l'a frappé, hein, qui arrive vraiment très très tardivement. Et tout ça raconte aussi beaucoup de choses sur cet aveuglement de Barry, sur sa vie personnelle. Et puis après, il y a la question de l'aveuglement collectif sur l'état de l'Amérique, puisque donc il va traverser un pays en juin 2016, avant l'élection de Trump. C'est vraiment j'adore.
Il a fini tellement doucement qu'on se demande si la phrase était terminée. Mais oui, Grégoire Leménager, sur ce livre de Gary Steingart.
Écoutez, je crois que si vous aviez eu des critiques à formuler contre ce livre,
vous auriez quitté le studio.
J'aurais dit que c'était génial. Vous êtes tellement dithyrambique que j'ai envie d'apporter quelques bémols quand même.
Allons-y
pour le plaisir.
On va rire.
Non, c'est formidable effectivement.
Ça c'est le bémol.
Bon bémol. Pour tout ce qui concerne le délitement de ce couple, pour tout ce qui concerne la crise existentielle de ce garçon qui est beaucoup trop riche pour être heureux, qui sur sa trajectoire, au début il se débarrasse de son iPhone pour partir dans son bus et puis il va se retrouver au fin fond du Nouveau-Mexique avec son amour de jeunesse qui lui refile un vieux téléphone à clapet, parce que c'est il y a une espèce de dépouillement.
Vous le gâchez ça, pas trop, mon
non,
cher.
Non, non, mais je dis pas ce qui va se passer. Et il se passe beaucoup de choses dans l'intervalle.
Ouais, justement.
Sur tout ça, c'est vraiment très très bien, je trouve. Alors, sur toute la partie intime. D'ailleurs, je trouve qu'il y a certains passages qui sont un peu moins réussis que d'autres. C'est-à-dire que dans le projet du livre, il me semble qu'il y a aussi un projet documentaire sur l'état de l'Amérique profonde, sur l'état de l'Amérique quand on sort de Manhattan, comme le fait ce garçon qui prend son bus. Ce que l'auteur a fait pour écrire le livre, il l'a pris son bus et il a dormi dans des motels sordides. Il a pris le bus avec des latinos, des gens qui ont jamais mis les pieds à New York, qui n'y mettront jamais les pieds, des gens qui vont voter pour Trump et tout ça. Et sur cette partie là, peut-être parce que le côté Fitzgerald est tellement éblouissant et tellement réussi que du coup le côté Kerouac, le côté sur la route me marque un peu moins. Je trouve que c'est un petit peu plus faible, quoi. Voilà, c'est pour le plaisir d'être désagréable.
Mais en fait, vous ne le pensez pas vraiment. Ça s'entend.
Non, je le pense un peu. Il y a une rencontre très, très 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 belle avec une fille là dont il arrive à faire quelque chose. Il y a beaucoup de scènes. Il y a beaucoup de choses, et à un moment où le type Barry est très très ému parce que je sais plus, il y a un Mexicain qui s'est endormi sur son épaule.
Un Mexicain borgne.
Il ne le sait pas encore qu'il est borgne.
Et il n'en fait pas grand chose de ça, et finalement, et en fait, ces voix-là de l'Amérique, on les entend pas tant que ça. Dans un livre, mais se veut aussi une radiographie de l'Amérique. Parce qu'il veut être ça.
Mais il y a quand même ça aussi, parce que le premier arrêt, c'est Baltimore, et donc pour lui, Baltimore, c'est la série The Wire que regarde sa femme, et donc il essaye d'analyser Baltimore par ça. Mais comme le fait aussi un groupe de rock allemand qui arrive, qui s'appelle Omar Little ou quelque chose comme ça, enfin qui fait référence, et toutes ces grilles se croisent, et je trouve que il y a une forme de naïveté d'en haut pour regarder l'Amérique d'en bas que je trouve à la fois très caustique, très ironique, mais pour moi très très efficace.
Je pense que on se tromperait à attendre de lui quelque chose de documentaire sur les villes populaires, les milieux populaires qu'il traverse. En réalité, l'aspect documentaire tient entièrement au regard de Barry. C'est le fait que cet homme qui vit d'abord une sorte d'épreuve métaphysique, puisqu'il ne sait plus du tout qui il est, ni ce qu'est sa vie, qu'il se serve plutôt pour vivre ça, pour aller le plus loin possible de lui-même d'un bus américain, suffit à révéler quelque chose de l'état de la société. Ouais. C'est-à-dire que
le monde est assis à l'avant parce que ça pue tellement la pisse à l'arrière.
Le pays.
C'est ça.
Il raconte une sorte d'île où tout le monde a au minimum un appartement à 2 millions de dollars. Il dit même c'est plutôt être un peu minable que d'avoir ça. Oui. Une île qui est Manhattan, entourée d'un gouffre. Et c'est l'histoire d'un homme qui se jette dans un gouffre. L'histoire profonde du livre est cette histoire d'ordre métaphysique, là. Mais l'aspect social est passionnant parce qu'il est justement dans le fait que il ne rencontre pas d'ailleurs que des, il rencontre un dealer, tout ce que vous voulez, des gens très très bas socialement, mais pas seulement. Il rencontre aussi une classe moyenne, mais même cette classe moyenne est pour lui comme sur une planète étrangère. Et là, il y a un aspect documentaire intéressant.
Oui. Mais avec sa grille de lecture qui est la sienne.
Steingart n'a pas cherché à faire du doc en faisant parler les gens. C'est pas du tout son but.
Non. Raphaël Leris, un petit mot encore.
C'est un éblouissant. Moi, j'adore quand il rencontre des personnes et que, par exemple, il essaye de nouer conversation parce qu'il prétend qu'il est très bon pour nouer les conversations parce qu'il s'y entraîne depuis qu'il est enfant et que quelqu'un lui dit « Je viens de Dallas », il dit « Oh, quelle ville formidable !» Il connaît juste l'hôtel de grand luxe de l'aéroport. Et donc, il essaye de parler de l'aéroport à cette femme qui n'a jamais pris l'avion. Et je trouve que ces scènes-là sont magistrales.
Mais non. 19h56 et 40 secondes, mon cher Florent, vos trois mots ont été entendus ce soir. Lake Success. Non, mais l'heure, c'est l'heure, mon cher Grégoire.
Et oui. Et
moi aussi, j'aimerais en parler, mon cher Grégoire, mon cher Florent. Mais c'est ce livre m'a beaucoup troublé. Lake Success de Gary Steingart aux éditions de l'Olivier dans une traduction de Stéphane Rock. Avant de conclure l'émission, le jeu de la dispute avec David Dana qui nous a rejoint, qui va d'abord nous rappeler la question du jeudi soir. Il l'a oublié. Il me fait signe qu'il l'a pas. Ah ben on va faire le jeu de ce soir. Allez, ce soir, on fait gagner des invitations. Pour le reste, vous le connaissez par le cinéma de Daniel Jeannetot au T2G, au Théâtre de Gennevilliers. Des places à gagner pour la représentation du 18 janvier. Vous avez la question, David, que vous avez rédigée de blanche main de votre beau cerveau.
Qui est le traducteur français du livre « Le reste, vous le connaissez par le cinéma » écrit par Martin Krimp?
Eh bien, si vous avez la réponse, vous nous l'envoyez avec vos coordonnées postales, tout ça par courriel à l'adresse suivante auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et David Dana. Prise de son ce soir, Florent Bujon, réalisation Émilie Valla. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur franceculture.fr à la page de la dispute. Demain, à 19h, une dispute série. Je serai en compagnie de Lucille Como, Iris Bray et Florence Colombani. Nous parlerons des séries Watchmen, The Witcher, Platane, saison Tri. Il y aura un coup de cœur également d'Iris Bray que vous découvrirez demain.